Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, guys.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Bienvenue sur le podcast Touchdown Actu pour ce 452e épisode. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft. Après avoir balayé les différentes positions avec l'ami Grégory Richard, place au podcast poste par poste. Et aujourd'hui, le poste le plus important dans ce sport, les quarterbacks. Jean-Michel Boujard au micro et pour m'accompagner, Victor Roulier. Salut Victor, ça va ?
Et bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Ben oui, ça va. J'aurais aimé parler de quarterback top 1 à la position, mais on n'est pas en 2021, on va y venir, mais on a quand même des choses intéressantes à dire.
Oh oui, je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Et puis de toute façon, c'est le poste de quarterback, donc forcément, ça va intéresser nos auditeurs comme ça va intéresser les scouts NFL. Donc aujourd'hui, on va le faire en trois parties. Allez, on y va pour la première.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Pour cette première partie, on va parler de trois quarterbacks. Logiquement, on aurait dû en parler d'un autre. Il s'appelle Spencer Rattler. Avant la saison, c'est lui qui était annoncé comme le meilleur quarterback pour la QV 2022, mais il a perdu sa place à Oklahoma, il est aujourd'hui remplaçant, donc du coup, on ne parle plus de Spencer Rattler. On va donc commencer avec celui qui est pour l'instant considéré comme le plus prometteur de tous les quarterbacks de la QV 2022 de la draft, c'est Matt Corral d'Ole Miss. Victor, Matt Corral, tu en penses quoi ?
Ah bah, j'en pense que c'est en effet aujourd'hui le quarterback qui est le plus, on va dire, en vue. Parce qu'en fait, tous se sont un peu cassés les dents sur certains matchs peu à peu dans la saison. Alors, tu as parlé de Rattler, qui est évidemment le plus emblématique, puisque Rattler, il était censé être numéro un. Maintenant, on ne sait même plus s'il va être drafté. Mais outre ça, il y a beaucoup de choses à redire sur beaucoup de joueurs. Et lui, au contraire, il progresse un peu à la manière d'un Josh Allen et de ce genre de joueurs, tous les ans, on observe une progression. Et c'est un joueur qui est assez complet. Il n'a pas des traits élites, que ce soit athlétiquement, que ce soit en puissance de bras. C'est pas un joueur hors du commun, mais il fait tout bien. Il a un bon release. C'est un ancien shortstop en baseball, un peu comme Kyler Murray. Donc, il a ses releases un peu modernes qui permettent de lancer rapidement la balle. Il a une bonne vision, une bonne mobilité. On l'a dit, j'ai dit, c'est pas un monstre athlétique, mais il a quand même une bonne mobilité. Et puis cette année, on disait l'année dernière des interceptions, parce que les interceptions, il avait fait 14 interceptions dans la saison, dont 11 sur deux matchs, 6 contre Arkansas, 5 contre LSU. Donc on se disait, attention, il y a des moments où mentalement, il lâche totalement. On n'a pas vu ça cette année. Il a deux interceptions, si je ne dis pas de bêtises. Il ne doit pas avoir beaucoup de fumbles perdus. Globalement, il est propre. Il est bon en deuxième lecture, ce que je n'avais pas forcément autant vu l'année dernière. Cette année, vraiment, il change de lecture et d'analyse de terrain. C'est vraiment bien. Et du coup, c'est aujourd'hui le profil le plus rassurant de cette draft.
Oui, c'est ça, je suis d'accord. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que je le trouve bon sous pression. On le voit être très très calme alors qu'un défenseur arrive à fond pour le mettre au sol. Et il sait très bien qu'il va être mis au sol, mais il reste calme, il fait son lancer et puis il exécute bien. Il sait bien exécuter une attaque, quoi. Ensuite, il apporte aussi beaucoup au sol. Alors, ce n'est pas une double menace. D'ailleurs, quand il court, moi, il me fait un petit peu rire. J'ai l'impression qu'il n'avance pas, quoi. Il court, mais on dirait qu'il n'avance pas. Mais en fait, il avance. Et d'ailleurs, cette année, il a déjà marqué 10 touchdowns au sol. Et ça, c'est très précieux, que ce soit pour sortir de la poche, si vraiment toutes ses lectures sont marquées, que ce soit aussi près de la zone d'en-but lorsqu'il faut aller marquer. C'est quand même une composante essentielle maintenant à NFL. Si ton quarterback est capable de t'apporter en plus d'un yard au sol, c'est quand même très précieux. Après, voilà, il fait beaucoup de très beaux lancers, moi je trouve, il a beaucoup de touchés. Mais parfois, ces lancers sont vraiment très dangereux. Alors, ça passe encore au niveau universitaire, mais c'est vrai qu'en NFL, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Une autre limite, moi, je dirais, c'est peut-être son physique qui est un petit peu léger. Et quand je parle de léger, je ne parle pas qu'il n'est pas assez grand ou quoi que ce soit, mais je parle que c'est un peu une frite, quoi. C'est une crevette. Et un peu comme Zach Wilson, on le voit, il est blessé en ce moment. Matt Corral, il faudra quand même qu'il soit plutôt bien protégé parce que s'il commence à prendre 10 chocs par match, au bout d'un moment, son corps, il va lâcher. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même un très bon quarterback. Comme tu dis, il a montré beaucoup de progression et ça, c'est très encourageant parce qu'il montrait des bonnes choses l'année dernière. Là, il a réduit ses erreurs, il continue à être performant. Donc, en vue d'une progression par rapport à un étage supérieur à NFL, etc., ça donne quand même de l'espoir pour une franchise NFL. Maintenant, on en parle comme notre quarterback numéro un, mais si on compare avec la QV de l'année dernière, par exemple, Matt Corral, tu le places avant Trevor Lawrence?
Ah non, non, moi je le place sixième. Enfin,
Voilà.
on va dire cinq ou six. Moi, le cinquième que j'ai l'année dernière, c'est Trey Lance, que j'avais plus loin que la plupart du consensus. Donc je le place derrière Lawrence, derrière Fields, derrière Wilson, derrière Mac Jones, au combat avec Trey Lance. Pour d'autres raisons, parce que Trey Lance, c'est une énigme XXL. Là, on a peut-être moins une énigme, mais on a un plafond qui me semble être bas. Après, la draft n'est pas une science exacte, encore plus quand on est en novembre. Mais il peut être numéro un parce que le poste de quarterback est surévalué et surdrafté, ce qui est normal, c'est le poste le plus important. C'est bien le seul que je verrais être numéro un pour le moment, et ce serait presque un numéro un par défaut.
Ouais, je pense aussi, ouais. La valeur de la position fait que, en plus, même si ça peut encore bouger, mais a priori, on voit bien que les Lions de Détroit ou les Texans de Houston auront un choix dans le top 3. Ces deux équipes ont besoin d'un quarterback, donc il se pourrait très bien qu'ils aillent sur un quarterback. Mais effectivement, ça serait un peu un choix par défaut et parce que la position est très, très importante. Mais bon, on parle de ses limites, surtout quand on compare à la QV de l'année dernière, mais ça reste quand même un quarterback très solide qui peut faire une belle carrière en NFL. On va passer à un deuxième quarterback, un autre physique, un autre style de jeu, et lui, il s'appelle Carson Strong. Il joue à Nevada.
Oui, Carson Strong, qui me rappelle un autre Carson, je le dis tout de suite, c'est Carson Palmer. C'est un joueur très intrigant. C'est le meilleur lanceur de cette QV en termes de puissance, précision, diversité des lancers, capacité de faire des lancers touchés, des lancers puissants. C'est le meilleur lanceur de cette QV. Et avec sans les red flags, il pourrait être numéro un de cette classe. Le problème, c'est qu'il a des red flags assez importants, alors pour parler français, des choses qui préoccupent, on va dire. La première, c'est qu'il est très grand, mais pas forcément très solide. La preuve, c'est qu'il s'est déjà cassé le genou, et que ça, en général, quand il y a un genou qui a grincé plusieurs fois, ça fait peur en NFL. La deuxième chose, c'est son manque de mobilité. C'est une statue, hein, on va dire. Si vous avez aimé notre cher ami de Florida, Kyle Trask, c'est un peu le même genre. C'est vous attendez pas de lui qu'il fasse une course de 15 yards, ça n'arrivera pas. Et la dernière chose où il n'y peut pas forcément grand-chose, mais c'est l'adversité de ce qu'il rencontre. Parce que Carson Strong, il est à Nevada. Et que quand tu es à Nevada, tu n'affrontes pas des cadors toutes les semaines. Contrairement, par exemple, à Matt Corral, qui à Ole Miss a l'occasion de rencontrer des très grosses universités. Donc voilà, beaucoup de attention, mais un bras qui ne peut pas être ignoré. Donc c'est vrai que personnellement aujourd'hui, je l'ai quarterback numéro 2.
Ouais, moi aussi. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Déjà, voilà, ce n'est pas un bras qu'il a, c'est un canon. C'est incroyable de le voir être dans la poche et puis lancer des bombes comme ça à 50, 60 yards. Et ce n'est pas juste histoire de dire je lance le ballon le plus loin possible. Non, c'est qu'il le lance là où il faut, là où il y a son receveur. Il est très, très bon sur les deep balls. C'est incroyable. C'est un vrai bombardier. Tu vois, cette année, il en est déjà à 28 touchdowns. L'année dernière, il en avait inscrit 27. Il a vraiment un bras très, très puissant. Il a un bon gabarit pour encaisser les chocs. Alors, c'est vrai qu'il a une blessure au genou, mais ça remonte il y a quand même quelques temps de ça. Alors, OK. Ça peut être aussi une limite, ça sera checké de toute façon lors du combine. Mais bon, là, a priori, ça fait 2 ans qu'il joue tous les matchs. Il n'est pas blessé, donc son genou, il a l'air de tenir. Après, c'est clair que c'est une statue, comme tu dis. On est sur l'instant stat, là, je vais vous donner sa stat au sol cette année. Donc, cette année, Carson Strong a produit moins 146 yards. Moins 146 yards. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas un quarterback qui est capable d'aller gagner des yards au sol pour faire bouger les chaînes, mais en plus, c'est quelqu'un qui a très peu de mobilité dans la poche. Et quand sa poche explose, eh ben, il se fait plaquer derrière la ligne d'engagement. Il perd donc des yards. Il n'est pas capable d'esquiver cette pression-là.
Oui, puis, non, rappelons quand même, parce que ça va faire peur aux gens quand tu dis moins 146 yards. Rappelons qu'en NCAA, quand vous êtes saqué, ça compte pour des yards de course négatif, ce qui n'est pas le cas en NFL. Donc, en fait, dans ces moins 146 yards, il y a des yards perdus par sac. Donc, ça atténue un peu l'impact du chiffre, mais ça reste un chiffre important.
Oui, justement, c'est quand il est sous pression, il n'est pas capable de s'échapper de la poche. Il se fait saquer, il se fait mettre au sol. Et ça, c'est un problème. On le voit bien toutes les semaines en NFL, sur certaines séquences, les défenses prennent le pas sur la ligne offensive. Et si ton quarterback n'est pas capable de faire des petits mouvements et d'au moins arriver sur la ligne d'engagement, ben ça peut être un problème. Après, tu sais ce que tu as avec lui. Tu as un lanceur depuis la poche, il a un bon gabarit pour encaisser les chocs, il a un bras très puissant pour effectuer tous les lancers. Moi, je le vois bien en NFL l'année prochaine. Je veux dire, si on commence à se projeter un petit peu, quand je vois par exemple une attaque comme celle des Steelers, c'est une attaque très aérienne qui tente beaucoup de jeux par la passe, qui aligne la plupart du temps trois receveurs sur le terrain. Moi, je vois bien un Carson Strong pour remplacer Ben Roethlisberger dans ce système-là. Parce que voilà, avec la puissance de son bras, c'est un joueur qui peut faire ces choses-là. Moi, si je devais prendre une comparaison par rapport à un joueur NFL, je parlerais peut-être de Derek Carr. Le joueur des Raiders, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme ça, qui n'est pas très mobile, qui reste dans la poche, mais qui a en même temps un très bon bras et pour effectuer tous les lancers. Donc, c'est un bon joueur. Moi, je pense qu'il peut valoir un premier tour de la draft cette année. Et je pense que vu la valeur de la position, il partira sans doute au premier tour. Après, il a quelques limites.
Moi, je pense que dans un système où, par exemple, tu lui donnerais des cibles de type Courtland Sutton, Jerry Jeudy, Noah Fant et Albert O, au hasard, hein, évidemment, hein, je prends ces joueurs totalement au hasard, je me dis que ça pourrait, pourquoi pas, marcher.
Oui, effectivement aussi. Mais moi, tu vois, si je me projette sur l'attaque des Broncos, je pensais justement à un autre quarterback qui, à mon avis, ferait très bien l'affaire chez eux. Et c'est le troisième dont on va parler dans cette première partie. Il joue à l'université de Pittsburgh et il s'appelle Kenny Pickett. Ton avis, Victor, sur Kenny Pickett ?
Kenny Pickett, le Joe Burrow de cette année. Et je dis ça, c'est une comparaison à moitié sur le fait qu'il était quasiment non drafté et qu'il arrive au premier tour. Mais c'est aussi une comparaison dans le style de jeu, je trouve. C'est pas forcément très éloigné. Donc, Kenny Pickett, on commence à être habitué à ces joueurs venus de nulle part. Il y a eu Joe Burrow, il y a eu Zach Wilson. Donc là, c'est lui. C'est vrai qu'après trois premières saisons moyennes dans une équipe où, il faut dire, il n'avait quand même pas grand monde autour de lui. Là, cette année, l'attaque de Pittsburgh fonctionne enfin. Il y a des armes, c'est bien coaché. Et du coup, il a totalement explosé sur le plan statistique, mais aussi sur le plan visuel. Je veux dire, c'est un joueur extrêmement intelligent. C'est extrêmement intelligent. Il fait quasiment que des bonnes décisions. Vraiment, je trouve que son mouvement dans la poche cette année, j'ai l'impression de voir un autre joueur. J'ai l'impression de voir un game manager plus, ce qu'on ne voyait pas forcément l'année dernière. Après, bon, il y a des petits problèmes de constance. Il n'y a pas toujours, dans la deuxième lecture, parfois il prend trop de risques, mais ça fait aussi partie du jeu de Pittsburgh parce qu'il a un excellent receveur et il se dit pourquoi pas prendre des risques avec lui. Mais je trouve que là, on a le boom or bust, comme on aime dire aux États-Unis, c'est-à-dire le joueur qui peut soit exploser, soit être complètement nul. C'est ces joueurs qui, en un an, explose et on se dit soit il n'a pas explosé avant parce qu'autour de lui, c'était tellement nul qu'il n'arrivait pas à porter cette équipe. Il n'était pas mauvais, hein, mais il était moyen. Soit c'est justement parce que le système est bon qu'il brille, mais ça ne veut pas dire qu'il brillera ailleurs. Donc, c'est toujours très compliqué à évaluer ce type de joueur. Il reste un joueur, je pense, qui peut lui aussi gratter le premier tour parce que la projection commence à monter, semaine après semaine. Et sa dernière performance contre North Carolina, dans un match où c'était le seul match de la nuit où tout le monde a regardé, c'est le genre de choses qui vont l'aider aussi.
Oui, effectivement. Et tu vois, une autre hypothèse aussi, je pense, par rapport à son niveau, c'est que peut-être, voilà, un joueur qui arrive enfin à maturité. Il arrive à maturité là, maintenant. Comme tu disais, il faisait de bonnes saisons, mais c'était relativement moyen. Et là, il explose tout. C'est vraiment un joueur qui fait très peu d'erreurs. Alors, on parle parfois de game manager, avec c'est un terme souvent considéré comme un peu péjoratif. Mais pourquoi c'est péjoratif? Je veux dire, qu'est-ce qu'on demande à un quarterback? C'est d'exécuter une attaque. Tu vois, on parlait tout à l'heure des Broncos. Ils ont une bonne ligne offensive quand ils n'ont pas de blessures. Ils ont des bons receveurs. Ils ont également des bons coureurs. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque quelqu'un pour arriver à connecter le tout, à vraiment faire jouer tout le monde et à faire en sorte que ça marche. Et Kenny Pickett, c'est ça. Quelque part, tu parlais de Joe Burrow, c'est peut-être aussi un petit peu un Mac Jones, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément flamboyant, mais qui exécute très bien une attaque, un plan de jeu. Et ça, Kenny Pickett montre qu'il peut le faire. Après, moi, la limite que je mettrais peut-être, c'est qu'on se pose souvent la question, est-ce que ce quarterback peut amener l'équipe au bout, c'est-à-dire à gagner un Super Bowl? Est-ce qu'il a vraiment un trait vraiment élite, c'est-à-dire soit la puissance du bras, soit une mobilité extraordinaire, enfin quelque chose vraiment hors norme? Est-ce que Kenny Pickett a ça? Je ne suis pas certain. Est-ce que Kenny Pickett peut conduire une attaque à NFL? Oui, moi, je pense. Est-ce que vraiment il peut porter une équipe jusqu'au bout? Voilà, la question pour moi, elle est là.
Il va avoir une grosse pression au Senior Bowl. Ça fait partie des joueurs qui vont être plus regardés au Senior Bowl et ça va être extrêmement important pour lui, comme ça avait été le cas par exemple pour Mike Jones. Hein, mais il va être très regardé. Et quand tu disais game manager, moi je dis toujours, ça, certains tiquent, mais moi je pense totalement, Tom Brady est un game manager.
Oui,
Et il a gagné
exactement.
7 titres. Donc game manager, ce n'est pas forcément péjoratif. Au contraire, un bon game manager, c'est justement. Alors, Tom Brady a un peu évolué au fil des années. Il était surtout game manager sur le premier triplé. Et maintenant, il a peut-être un petit peu plus évolué avec la NFL. Mais pendant très longtemps, c'était juste le game manager de génie qui permettait à son équipe de gagner les matchs. Donc, je pense en effet que Pickett et Corral sont deux joueurs similaires sur beaucoup de points. Et ça va être très important les échéances qui arrivent, comme le combine, etc., pour les différencier.
Oui, ben justement. Alors, du coup, là, on a parlé de trois quarterbacks: Matt Corral d'Ole Miss, Carson Strong de Nevada, Kenny Pickett de Pittsburgh. Ce jour, si tu devais faire un classement entre les trois, qu'est-ce que tu mettrais?
Corral, Strong et Pickett. Je mettrais Corral top 15 et Strong et Pickett premier tour, mais encore une fois. À une autre position, je les aurais mis second tour, mais on surévaluait quarterback, donc j'ai mes premiers tours.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'hésite entre Pickett et Strong encore. Voilà les différences dont on a parlé. Strong, je pense, peut amener beaucoup plus de folie dans le jeu, avec un bras beaucoup plus puissant pour effectuer tous les lancers à NFL. Mais Pickett me paraît tellement plus solide, tellement plus fiable. Et on voit bien ce qu'un quarterback fiable peut faire à NFL. Je suis très content de voir ce que fait Mac Jones là, avec les Patriots, même si je ne suis pas fan de cette équipe. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Donc pourquoi pas Pickett en deuxième? À voir. Mais comme tu
Ouais,
dis,
on
le.
est en novembre, hein. De toute façon, il reste une
Ouais.
vie avant la draft.
Oui, et le Senior Bowl, justement, c'est un événement important. C'est un événement qui se passe au mois de janvier. Et donc, tous les staffs NFL seront présents pour l'évaluer, pour l'interviewer. Et ça se jouera beaucoup là-dessus. Donc voilà, on a fait le tour sur nos trois premiers quarterbacks. On va passer à la seconde partie.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Une seconde partie où on a également trois quarterbacks. Trois quarterbacks avec trois profils très différents. On va commencer avec le plus grand, le plus athlétique, le plus costaud des trois. Il s'appelle Desmond Ridder et il joue à Cincinnati.
À Cincinnati, l'équipe qui est en train de se faire enfler par le comité, si vous suivez le college football. Desmond Ridder, il est bon, voire même très bon la plupart du temps. Et il a une chance quand même, c'est d'être un peu. Enfin, ils ne sont pas beaucoup cette année dans le profil de la vraie double menace. Et Desmond Ridder, c'est ce qu'il est. Il est une double menace, athlétique, bras puissant, jeu de course. QI football, il a tout ça. Après, pour moi, il a deux problèmes. Un, c'est la précision. Et deux, c'est cette propension qu'ont certains joueurs, coucou Carson Wentz, à vouloir être le héros. Et du coup, il en fait trop. Parfois, joue simple, ça va marcher. Et il a encore besoin de se canaliser, mais ça, c'est quelque chose qui se coache. Pour moi, clairement, ce qui empêche ce joueur ultra-athlétique d'intégrer le premier tour, c'est aujourd'hui sa précision qui, sur les tracés moyens et sur les tracés longs, n'est pas mauvaise, mais n'est pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un franchise quarterback.
Oui, c'est ça, exactement. Il est grand, il est athlétique, il a un bras très puissant. Et puis, comme tu dis, c'est une double menace. En 2020, il a mis 12 touchdowns au sol. Il en a mis 27 en quasiment 4 saisons, puisque la quatrième est presque terminée. Voilà, il peut t'apporter ça. Si tu le mets dans un système, par exemple, en read option, où le quarterback va choisir au dernier moment de donner la balle au coureur ou de courir lui-même, voire en read pass option, c'est-à-dire qu'il peut aussi choisir de lancer une passe. Moi, je pense qu'il peut faire des dégâts. Mais après, effectivement, il est souvent trop irrégulier, c'est-à-dire qu'il va faire des passes fantastiques. Les fans vont bondir de joie, vont dire « c'est extraordinaire ». Et puis sur le jeu suivant, il va lancer un ballon de 20 yards et puis le ballon va être trop long ou va être trop court ou va être mal placé. D'ailleurs, il a un petit peu des problèmes avec sa mécanique de lancer. J'ai vu qu'il a travaillé en ce moment avec un des spécialistes, avec Jordan Palmer. Tu parlais de Carson Palmer tout à l'heure, mais son frère s'occupe souvent des quarterbacks pour la draft. Il a quand même du travail technique à faire, mais c'est un bon pari. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore incertain. C'est-à-dire que quelque part, quand tu le vois jouer, si tu te projettes sur la NFL et sur peut-être des comparaisons, tu dis « oulala, peut-être c'est le nouveau Josh Allen ». Il a un peu le même gabarit, un peu ce même jeu-là, capable de courir, capable de lancer des balles très puissantes. Mais ça peut être aussi un Jacoby Brissett qu'on voyait à l'université. C'était un peu le même style aussi, c'est-à-dire qu'il était également mobile, qu'il avait également un bon bras, mais qui était encore trop irrégulier en précision. Donc, quel sera l'impact de Desmond Ridder en NFL? C'est encore très, très difficile à dire.
Oui, tu fais bien de préciser, quand on dit double menace, il y a plusieurs types de double menace. Hein. Cam Newton est une double menace, Lamar Jackson est une double menace, mais ce n'est pas du tout le même type de joueur. Là, en effet, on est plus proche de joueurs un peu grands et forts, comme peuvent l'être Josh Allen ou même Cam Newton, même si Cam Newton, c'est encore au niveau dessus, mais il n'est pas, c'est pas une double menace type Lamar Jackson. Mais bon, voilà, il va faire ses 250 yards dans les airs, 70 yards au sol, et ça peut faire gagner un match.
Ouais, et puis quand tu es à 10 yards de la ligne d'en but, eh ben, avec Desmond Ridder, ben, tu sais que. Alors peut-être qu'au niveau de la précision, il n'aura pas toujours la bonne passe, mais par contre, il peut très bien conserver le ballon, puis déborder la défense et puis aller marquer. Et ça, c'est quand même précieux. On va passer sur un autre quarterback qui, quelque part, a aussi quelques qualités dans le même style, mais il n'a pas le même gabarit. Il s'appelle Malik Willis et il joue à Liberty.
Ouais, Malik Willis. Il y a encore un mois, je t'aurais dit, oh là là, vraiment top 3 quarterback de cette draft, malgré le manque de diversité, parce qu'en effet, c'est un peu comme quand tu joues à Nevada, quand tu joues à Liberty, c'est compliqué. Mais alors, il a connu un mois de fin octobre, début novembre, assez compliqué. C'est un joueur athlétique. Il a un bras très puissant, largement suffisant pour la NFL. Il est agressif. Il sait improviser. Donc, son jeu... en course et pas mauvais du tout. Après, moi, je trouve qu'il a des vrais gros problèmes. Je dis tout de suite, hein, de ce trio-là, c'est celui pour qui j'ai le moins confiance. Il a des problèmes en précision, même si ça va mieux. Il a des problèmes de gestion de la poche. Il se prend trop de sacs stupides. Il ne lâche pas le ballon. Il tente de faire des trucs, mais tu te dis, mais c'est perdu d'avance. Reste dans ta poche ou lâche le ballon, mais n'essaye pas de faire ça. Du coup, il est sujet éventuellement à des pertes de balles parce que justement, il prend ses décisions un peu incroyables. Il tente de jouer au héros pour sauver son équipe. Il en fait trop, en fait. Il en fait trop. Il a des qualités physiques, ça, c'est sûr. Et on sait qu'en NFL, ça peut suffire à être drafté haut. Mais j'ai envie de dire, le test oculaire, quand je regarde des matchs, je n'ai pas envie de faire confiance à ce joueur-là parce que pour moi, c'est une bombe à retardement. Alors, il a peut-être le plus haut plafond de ce trio-là, mais par contre, il a le plus bas plancher. Et ça, pour moi, c'est assez évident. Du coup, c'est un peu vous lancer une pièce à pile ou face et vous espérez qu'elle tombe toujours du bon côté.
Oui, mais c'est un peu le défaut de ses qualités, en fait. Parce que Malik Willis, quand tu regardes ses matchs, parfois, tu le vois dans la poche, les receveurs ne sont pas vraiment démarqués, du coup, il va décider de courir. Et là, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, on dirait Michael Vick presque, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive hop, hop, gauche-droite, il esquive les défenseurs, il sort de la poche, il esquive d'autres défenseurs sur le second rideau, il va gagner 25 yards à la course. Il est exceptionnel en courant. Mais justement, parce qu'il a cette qualité-là, comme tu dis, parfois, il garde trop le ballon en se disant « mais de toute façon, je vais les esquiver, je vais… » Et puis non. Et puis non, il se fait aplatir, il a perdu 10 yards sur l'action et puis c'est terminé. Après, c'est vrai qu'il n'est pas aidé à Liberty, sa ligne offensive, elle n'est vraiment pas terrible, on l'a vu encore contre Ole Miss, il n'a pas des receveurs extraordinaires non plus. Mais voilà un quarterback qui a un bras très puissant, qui a une capacité… en mobilité au-dessus de la moyenne, mais par contre, au niveau des lectures, au niveau de faire les bons choix, là, il y a quand même beaucoup de travail, effectivement. Donc, c'est vraiment un quarterback que si tu le prends, c'est un pari sur l'avenir. Un pari sur le fait que tu vas pouvoir le faire progresser, notamment en intelligence de jeu. C'est-à-dire quand prendre les bonnes décisions, quand lancer, comme tu disais tout à l'heure, juste une screen et ça va suffire, quand s'en remettre à ses jambes, mais quand aussi essayer d'avoir au moins une deuxième lecture. Parce qu'en NFL, ça va être ça, il va affronter des défenses autrement plus compliquées que celles qu'il affronte là avec Liberty. Et donc, du coup, il y a vraiment du boulot à faire, mais le potentiel est là. Après, on sait très bien que les franchises, pour un quarterback, elles peuvent, comment dire, reacher, c'est-à-dire prendre les joueurs au-dessus de leur véritable niveau. Mais a priori, moi, pour l'instant, je ne le vois pas au premier tour.
Non, clairement pas. Non.
Notre troisième joueur de cette deuxième partie, lui, par contre, je pense que même s'il a des limites, il a vraiment le potentiel pour être choisi au premier tour. Il s'appelle Samuel et il joue à North Carolina.
Oui, Samuel, c'est... la plus grande énigme, je pense, de cette draft. C'est un quarterback qui était considéré très haut avant le début de la saison. Il faut dire que l'année dernière, il évoluait dans une attaque qui comptait Michael Carter, Javonte Williams, Diami Brown. Et donc, c'était quand même une excellente attaque. Cette année, il a beaucoup moins de cibles. Du coup, ça fonctionne moins bien. Après, ça fonctionne moins bien. C'est surtout le début de saison qui a été compliqué, et surtout que le match d'ouverture, c'était eux contre Virginia Tech, et qu'on a tous vu faire n'importe quoi contre Virginia Tech. Et donc, malheureusement, c'est triste, mais quand c'est en antenne nationale, quand tout le monde regarde, bah, ça reste dans la tête. C'est comme ça, parce que quand vous avez un seul match et que vous n'avez pas les yeux partout, c'est plus facile de voir les erreurs. Après, c'est quand même mieux, peu à peu, cette saison, je trouve. Il est en train de retrouver son mojo, si je peux dire. Il est globalement précis, il est assez intelligent. Je trouve que sa résistance à la pression est quand même pas mauvaise. Quand il est blitzé, il arrive à faire les bons choix. Et surtout, la grosse surprise de cette année, c'est le jeu au sol. C'est qu'aujourd'hui, il est le joueur de NCAA qui a le plus de courses de plus de 10 yards. Je n'ai pas dit le quarterback, j'ai dit le joueur. Donc, ça inclut les coureurs. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on avait très peu vu faire les saisons précédentes. Et là, il nous montre une capacité à courir. J'ai presque envie de qualifier de double menace cette année, alors que c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc ça, c'est à son crédit, à son passif. Donc des capacités athlétiques qui ne sont pas non plus extraordinaires, même s'il a, on va dire, le principal. Et cette capacité assez incroyable à bloquer sur la première lecture. Par moments, j'ai l'impression de voir Jalen Hurts. C'est Jalen Hurts de Oklahoma qui a une cible et si ça ne passe pas, je cours. Il est presque devenu une caricature. C'est lui qu'on ne voyait jamais courir. Là, il court presque trop parfois. Tu as envie de dire, scanne le terrain avant de prendre ta décision. Et donc, voilà, je pense qu'il y a du progrès à faire. Il y a un peu du Baker Mayfield du pauvre, si je peux me permettre un peu cette comparaison, parce que Baker Mayfield, c'est quand même le niveau au-dessus hein, en NCAA. Hein. On va pas non plus lui manquer de respect. Mais c'est ce genre de joueur qui, bien coaché, si on lui laisse le temps de progresser, il peut devenir vraiment bon. Mais c'est une énigme, quoi, parce qu'il peut aussi toute sa vie rester à ce niveau un peu intermédiaire. et devenir, je ne sais pas moi, qui on prend comme exemple actuel, Trevor Siemian, ce genre de joueur, genre, c'est bien, c'est un bon backup, il peut dépanner, il peut gagner des matchs, mais tu ne gagneras pas un championnat avec lui. Bah ouais, Howell, j'ai un peu peur qu'il tombe dans ce purgatoire, et c'est une vraie énigme.
Ouais, ouais, ouais. Bah, il a des défauts, tu en as parlé, hein. Après, moi, ce que j'aime bien, notamment, c'est, tu vois, tout à l'heure, j'évoquais pour Kenny Pickett, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui peut t'amener au bout? Alors, Samuel, il est beaucoup moins fiable actuellement que Kenny Pickett, mais par contre, c'est un quarterback qui est très agressif, qui est tout le temps dans l'attaque, tout le temps, tout le temps. Il va rechercher le gros jeu, il lance une balle, elle est foirée, ça, c'est nul, eh bien, c'est pas grave, le jeu suivant, il réattaque encore, il a la mémoire courte, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un de très agressif, qui a un bras très puissant également. Et donc, du coup, lui, c'est quelqu'un qui, s'il arrive à réduire un petit peu ses erreurs, s'il arrive à être dans un système adapté, mais il peut faire des choses extraordinaires. Moi, j'adore son agressivité. Et même, tu vois, quand on parle de ses capacités à gagner des yards au sol, c'est également de l'agressivité. Ce n'est pas quelqu'un qui est en première intention, comme tu dis, ce n'est pas une vraie double menace. Donc, il ne recherche pas forcément la course. Mais par contre, il est très agressif. C'est-à-dire que le ballon est engagé. Si ce qu'il voit se développer, ça ne lui plaît pas, eh ben, ce n'est pas un problème. Il va baisser l'épaule, il va aller au choc avec le linebacker et il va essayer de gagner des yards à la course. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'agressivité. Et ça, je pense que si tu arrives à couper ses erreurs, ça peut faire quelque chose de très bon en NFL. Et j'aime bien la comparaison avec le Baker Mayfield qu'on a vu à Oklahoma. Parce que c'était exactement ça aussi, avec la dimension à la course un petit peu moindre. Mais Baker Mayfield à Oklahoma, c'était quelqu'un qui était tout le temps dans l'agressivité. Bon, c'est le système de Lincoln Riley qui veut ça aussi. Mais quelqu'un qui était tout le temps en train de rechercher les gros jeux, d'attaquer la profondeur, de tout le temps attaquer. Et Samuel, moi, je pense qu'il a vraiment cette qualité-là. Alors, c'est vrai que cette année, ça a été un début de saison un peu plus compliqué. Là, ça va un petit peu mieux. Il y a encore des limites, comme tu dis. Il n'est pas toujours très précis, notamment. Mais par contre, il est très agressif. Dans les bonnes conditions, c'est quelqu'un qui peut porter une attaque en NFL pour moi.
Oui, je pense que c'est sûrement celui qui bénéficierait le plus de jouer en RPO. Assez régulièrement dans son équipe, dans sa future équipe NFL.
Donc, comme on l'a fait pour le premier chapeau, là, dans le deuxième chapeau, on a parlé donc de trois quarterbacks. Donc, Desmond Ridder de Cincinnati, Malik Willis de Liberty et Samuel de North Carolina. Si tu devais les classer, 1, 2, 3, tu ferais quoi?
Ah, c'est dur. 3 Malik Willis. Ça, voilà, je te dis. Deuxième, troisième tour. Donc, 3 Malik Willis, ça, c'est sûr. Je pense que je mettrais un Desmond Ridder et deux Samuel. Je les mettrais un peu premier, deuxième tour. Donc, je les mets un peu au même niveau. Je mets Desmond Ridder devant parce qu'il a un profil différent des autres. Et du coup, ça peut plaire à une équipe qui recherche ce profil-là. Mais là encore, on est en novembre et ça a largement le temps de changer. Et je pense que Howell fait partie de ce type de joueur. On en discutait dans la rédaction et on est à peu près tous d'accord. Qui plaît souvent plus aux scouts qu'il ne plaît aux amateurs comme nous qui regardons les matchs. Donc, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, Ridder, Howell, Willis.
D'accord. Ouais, bon, je te rejoins sur Willis. Hein. Je le mettrai en 3 aussi également. Hein. Mais par contre, après, je pense que je mettrai quand même Howell devant Ridder, même si j'aime bien Desmond Ridder. C'est un quarterback qui me plaît. Je pense qu'il peut valoir une fin de premier tour. Hein. Les Lions de Détroit auront un deuxième choix de draft à la fin de ce premier tour et pourquoi pas un Desmond Ridder. Mais je pense que Samuel, justement, avec sa capacité à pouvoir faire des jeux décisifs, moi, je pense que ça peut plaire à une équipe qui peut se dire « Oui, mais chez nous, de toute façon, on va arriver à le canaliser. Oui, mais chez nous, de toute façon, il va retrouver, comme il avait l'année dernière, de bonnes cibles. » Je veux dire, si je me projette un petit peu comme ça, vite fait, je me dis pourquoi pas Carolina, par exemple. Et pas juste parce que c'est dans la même région des États-Unis, mais parce qu'ils ont du Robbie Anderson, du DJ Moore, ils ont comme ça des cibles. Et un Samuel avec en plus un running back comme Christian McCaffrey, je pense que dans une telle attaque, avec sa capacité à être agressif, il pourrait faire de très bonnes choses. Donc, moi, je mettrais quand même Samuel en 1, Ridder en 2 et puis Willis en 3. Donc voilà, on a fait notre deuxième partie. On a donc en tout parlé de 6 quarterbacks. Pour terminer notre épisode, on va parler de 2 sleepers.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Donc, les sleepers, c'est ce type de quarterback qui est drafté davantage dans l'espoir d'avoir un bon remplaçant ou quelqu'un à développer. Donc, quelqu'un qu'on va plutôt prendre pas avant la fin du quatrième tour, cinquième tour. Donc, on aurait pu parler de Brennan Armstrong, de Virginia, de Tanner Mordecai, de SMU, de Hendon Hooker de Tennessee ou même de Hank Bartmeyer de Boise State. Mais là, aujourd'hui, Victor, tu vas nous parler d'un quarterback qui a une lettre près avec un nom de famille parfait.
Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais, je pensais pas que Hooker était éligible. Tu vois, tu me l'apprends. Je pensais qu'il ne serait éligible que l'année prochaine. Oui, je vais vous parler de Bailey Zappi, un joueur qui a évolué pendant un moment à Sam Houston ou Houston Baptiste. Non, Houston Baptiste.
Pardon. Houston Baptiste.
Sam Houston, c'est ceux qui ont gagné le titre en FCS et qui est aujourd'hui à Western Kentucky. Ben, les stats ne veulent pas tout dire, mais enfin, je vais vous les donner, vous allez vite comprendre. 4170 yards, 42 touchdowns, 7 interceptions. On est sur un lanceur pur. Il est incroyablement fun à voir jouer. Il est précis. Il résiste à la pression. C'est un leader. Globalement, c'est le sleeper à la mode. Hein. D'ailleurs, on ne trahit pas de secret si on dit qu'à la base, on ne s'était pas consulté au départ. Et on avait le même sleeper, c'est-à-dire qu'il plaît à de plus en plus de monde. C'est, il n'a pas des dimensions athlétiques folles, hein. On en revient encore à ça. Alors certains vont me dire, oui, Drew Brees non plus, etc. Il y a toujours des exceptions, mais le fait est qu'avoir des bonnes dimensions athlétiques donne quand même plus de chances de réussir. Il n'empêche que pour une première année en première division, enfin en FBS, il impressionne tout le monde. Il a un calme assez incroyable. Et même dans des matchs, par exemple, comme Michigan State, donc quand même, Michigan State, c'est aujourd'hui une top 10, top 10, top 15 université du pays. Il a fait 46 sur 64, 488 yards et 3 touchdowns. Je veux dire, il n'a pas été ridicule, même quand il a affronté des grosses équipes. Alors qu'autour de lui, il a des bons joueurs, il a notamment les frères Stearns qui sont venus avec lui de Houston Baptiste, je ne vais pas y arriver. Mais globalement, il arrive à créer de rien et il a une vision que je trouve extraordinaire et un lancer que je trouve vraiment hors du commun. Et moi, je vais prendre un risque, c'est qu'aujourd'hui, Bailey Zappi, je pense qu'avec une bonne fin de saison et des bonnes performances après la saison, pourrait très bien intégrer le deuxième chapeau.
Oui, quand même, ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il est séduisant. C'est un bombardier. Voilà, c'est un bombardier. Quelqu'un qui allume tout le temps, c'est un bombardier. On parlait déjà un petit peu de sa qualité avec Carson Strong tout à l'heure, mais alors lui, c'est vraiment le niveau au-dessus. C'est ce qu'on appelle le gunslinger, le gars qui tout le temps va rechercher le gros jeu, la belle passe, et puis on y va, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Après, effectivement, voilà. Et au niveau physique, c'est peut-être un petit peu limité. Par rapport à des défenses NFL qui vont faire exploser sa poche devant lui, comment il va réagir, je ne sais pas. Par rapport au niveau de compétition, ça va lui faire drôle aussi, puisque donc il vient du second niveau universitaire. Cette année, il est au premier niveau universitaire, mais bon, c'est quand même Western Kentucky, ce n'est pas non plus la conférence SEC ou la Big Ten. Après, comme tu dis, face à une grosse équipe comme Michigan State, il a été performant. Mais bon, voilà, c'est quand même un joueur qu'on classe en sleeper. Enfin, moi, pour l'instant, je le laisse toujours dans les sleepers parce que c'est quelqu'un qui nécessitera du développement. Quelqu'un que tu vas prendre au quatrième ou cinquième tour, mais si tu as déjà ton quarterback. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'une équipe en recherche d'un quarterback va prendre Bailey Zappi. C'est plutôt une équipe qui a déjà un quarterback, qui cherche un autre remplaçant, quelqu'un avec du potentiel à développer. Et donc, pourquoi pas un Bailey Zappi. Ouais, moi, j'aime bien ce joueur.
Moi, je dirais par exemple aux Rams, tu vois, parce que Stafford ne sera pas non plus éternel, même s'ils viennent de trader pour lui. OK, mais enfin, il n'empêche qu'il ne sera pas éternel. Est-ce que tu ne mets pas Bailey Zappi 2 ans derrière lui en se disant dans 2 ans, on fait le point? Tu vois, ce n'est pas forcément impossible à imaginer.
Oui, oui, effectivement. Et puis même, de toute façon, il te faut aussi un second quarterback parce que imagine Stafford, il se fait mal à la cheville, il rate 2 matchs. Une équipe comme les Rams qui est bâtie pour aller au bout, si pendant ne serait-ce que 2 matchs, tu perds ton quarterback, tu fais quoi? Donc, si tu as un bon remplaçant qui est capable voilà, de continuer à alimenter tes nombreuses cibles et ton jeu aérien comme le font les Rams, ça peut être une bonne affaire, ça peut être un bon choix de draft. Alors bon, on parle des Rams, il se trouve que les choix de draft, ils n'en ont presque plus. Mais un Bailey Zappi, ça serait une bonne chose pour eux, je pense, oui.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Et je me remets en tête qu'en effet, Hooker a été à Virginia Tech pendant 2 ans. Donc,
oui, c'est un transfert.
Tu as raison qu'il est largement éligible. Moi, je vais te faire la promo de ton sleeper. Parce que vous savez, une draft sans quarterback d'Alabama, ce n'est pas une draft. Alors, on a un problème. C'est que le quarterback du Alabama, le gros Alabama, il n'est pas disponible. Il n'est pas éligible. Donc, ça pose un problème. Du coup, Jean-Michel s'est dit, j'ai une idée. Je vais prendre un certain Akil Glass qui joue à Alabama NAM.
Exactement. Eh oui. Parce que voilà, l'Alabama, c'est l'état des quarterbacks. Non, je rigole, mais quand même. Voilà, pourquoi pas Akil Glass. Alors, Alabama A&M, c'est là aussi le deuxième niveau universitaire. Alors, on en a vu d'autres qui en viennent de ce niveau-là. On a vu Carson Wentz, on a vu… on ne l'a pas encore beaucoup vu, mais Trey Lance aussi qui vient de ce niveau-là. On en a vu d'autres aussi, qui ont bien réussi. Hein. Mais voilà, Akil Glass, pourquoi pas? Il faut voir, il a un gros physique. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a un bon bras, il a un bon gabarit pour encaisser les chocs. C'est quelqu'un de très productif. Là, par exemple, cette année, il en est à 30 touchdowns, seulement 7 interceptions. Après, le souci, c'est que déjà, à ce niveau-là, il n'est pas dominant. Voilà, ça déjà, c'est un problème. Si on parle d'un Carson Wentz ou d'un Trey Lance, à leur niveau, ils étaient dominants. Alors certes, ils jouaient dans une équipe très dominante, North Dakota State, ce n'est pas le cas d'Akil Glass, mais ils ne dominent pas à ce niveau-là. Par contre, il a quand même certains attributs très intéressants. Je l'ai dit, son bras, sa propension à attaquer la profondeur, il a un bon gabarit pour encaisser les chocs. Ce n'est pas le plus mobile des quarterbacks, mais ce n'est pas une statue non plus. Après, voilà, le niveau de compétition fait que, déjà, c'est une grosse limite. Le système dans lequel il joue aussi. Moi, la plupart du temps, la plupart de ses lancers, c'est quand même beaucoup de screens. Alors, c'est bien les screens et on s'en sert à NFL. Mais à NFL, il faudrait être capable de faire autre chose. C'est un projet. Il aura vraiment besoin de temps pour parfaire sa science du jeu, le jeu pro-style, comme on dit. Et puis également par rapport à la vitesse de jeu, parce que ça sera totalement différent. C'est déjà différent pour un Matt Corral qui vient de la meilleure conférence universitaire. Alors, vous imaginez pour un Akil Glass qui vient d'Alabama A&M, au deuxième niveau universitaire. Mais on parle de sleeper. Donc, pourquoi pas un Akil Glass qui sortirait comme ça au 5e, au 6e tour, peut-être même au 7e, pour une équipe qui a déjà un quarterback et qui se dit « Tiens, moi, je l'aime bien celui-là. Pourquoi pas ? Sait-on jamais ? 1 an, 2 ans. Il pourra peut-être servir si j'ai une blessure sur 1 ou 2 matchs. Et puis, pourquoi pas, dans 3 ans, en faire quelque chose. » Donc, c'est pour ça que j'ai ciblé ce joueur, Akil Glass.
Ouais, moi, je vais être honnête. Hein, jusqu'à il y a 10 jours, je pense que je n'avais jamais vu un snap de lui. Du coup, bon, on a parlé, on a préparé l'émission. Donc, j'ai fait un peu mes devoirs. J'ai quand même des réserves sur la vélocité de son lancer et la puissance de son bras. Je pense que c'est des choses qui peuvent être rédhibitoires pour certaines franchises NFL. Après, oui, il est intelligent. On va dire qu'il tire le meilleur des situations. Donc, c'est la preuve d'un gros QI football. Mais j'ai peur qu'il manque quand même ce que les Américains appelleraient des intangibles. Il manque des qualités athlétiques qui sont, à mon avis, indispensables en NFL. Donc, j'ai un peu de mal aujourd'hui à me projeter avec lui en NFL, mais c'est tout la beauté des sleepers. Hein. C'est que on a quand même, en général, des images qui sont assez limitées. On n'a pas de All 22. C'est très difficile d'évaluer leur lecture, etc. Donc, les scouts ont plus de matos que nous. Aujourd'hui, j'aurais pas envie de me jeter sur lui, mais pour le coup, on a encore le temps de me faire changer d'avis.
Oui, et puis on parle d'un sleeper, et donc a priori, c'est pas une franchise qui va miser sur Akil Glass comme une franchise qui miserait sur Bailey Zappi. Mais quand tu auras de la NFL, c'est quand même important d'avoir aussi un bon remplaçant. Je veux dire, quand tu vois Logan Woodside à Tennessee, quand tu vois CJ Bessard. À Jacksonville, quand tu vois même un Mason Rudolph aux Steelers, est-ce que ça ne vaut pas le coup finalement d'avoir un Akil Glass?
C'est vrai que si tu mets dans la balance Mason Rudolph, qui n'est même pas capable de mettre 17 points aux Lions, c'est sûr que ça rééquilibre les choses. Oui.
Voilà, donc on parle d'un remplaçant qui en plus a quand même du potentiel, donc pourquoi pas? A priori, ce n'est pas quelqu'un qui est destiné à être sur le terrain, sauf vraiment en cas de blessure. Et puis ensuite, il y a le temps de le développer. Donc, bon, voilà. De toute façon, c'est un pari. Akil Glass, il sera drafté, il ne sera pas drafté. Franchement, j'en sais rien pour l'instant, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même du potentiel. Et je voulais en parler dans cette dernière catégorie, la catégorie des sleepers. Donc, on a fait le tour, là, dans ce podcast, sur les quarterbacks pour la QV 2022. Maintenant, une dernière question, Victor. À ton avis, en considérant les profils qu'on a évoqués, mais également, forcément, la valeur de la position, combien de quarterbacks iront au premier tour en avril 2022?
Ah là là, c'est dur. Combien iront au premier tour? Ben, du coup, pour être quand même cohérent avec ce que j'ai dit, je pense que Matt Corral, c'est sûr. Carson Strong, je dirais pour l'instant, oui. Kenny Pickett, oui. Allez, et je vais dire un des deux entre Reader et OS. Donc, je dirais 4. Mais j'écarte pas du tout, si ça continue à enchaîner les contre-performances d'un côté et de l'autre, j'écarte pas du tout une draft type EJ Manuel avec un seul quarterback au premier tour. C'est juste que la tendance actuelle est de vraiment surévaluer d'une manière assez incroyable les lanceurs. Donc, du coup, je me dis, il y en a bien 3 ou 4 qui vont céder. Mais, bon, ça sera à voir. Je pense que ce qui peut les aider, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont plusieurs choix. Les Eagles, les Jets, les Giants, les Lions. Donc, ça peut faire des cibles. Donc, voilà, je dirais, allez, 4, mais ça peut être beaucoup moins.
Ouais, effectivement. Bon, là, toutes les possibilités sont ouvertes de toute façon. Hein. Mais comme tu dis, la valeur de la position est souvent surévaluée. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même pas mal de franchises qui ont besoin d'un quarterback. Ouais. Parce que soit ils ont un quarterback en fait carrière, on peut penser aux Falcons d'Atlanta avec Matt Ryan, aux Steelers avec Ben Roethlisberger, soit il y a des franchises qui n'ont pas vraiment un de performant, que ce soit Détroit, que ce soit Charlotte, enfin Carolina. Donc moi, par exemple, je vais vous renvoyer sur un article qui sera disponible mardi prochain, et c'est une mock draft écrite, et au premier tour, j'ai mis 5 quarterbacks. Donc je vous laisserai découvrir qui sont les 5 et pour quelle équipe, mais je ne serai pas surpris qu'il y ait 5 quarterbacks.
Eh bien, on verra ça. Et j'espère que tu n'as pas manqué de respect à bébé Jalen, qui est Jalen Hurts, qui est en train de devenir un cador, hein, un cador de NFL. Il n'y a pas besoin chez nous. Hein. Non, non. Top 10, hein, c'est annoncé. Hein.
Cador, c'est le mot. C'est le mot pour conclure cet épisode du podcast. Ben, écoute, merci Victor.
Merci à toi.
On se retrouve très bientôt pour une autre position sur Touchdown Actu.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.